Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Rudolf Nureyev a toujours attaché une importance particulière à ses costumes de scène. Au fil des années, abandonnant la culotte courte pour le seul collant, il fit évoluer son pourpoint vers des formes toujours plus simplifiées, des coupes adaptées à sa morphologie pour la mettre en valeur et lui offrir une liberté de mouvement toujours plus grande. Dans sa collection personnelle, dont le Centre national du costume de scène s'est vu confier la conservation par la Fondation Nureyev, on compte plus d'une centaine de costumes portés par lui-même et ses partenaires. À Moulins, leur exposition permanente offre aux visiteurs l'occasion de passer de Gisèle au lac des Cygnes, de la Bayadère à la Belle au bois dormant, de Raymonda à Roméo et Juliette, de voir ainsi, pour un moment, revivre le danseur mythique auquel le temps de la danse rendait hommage en janvier 1993, au lendemain de sa mort.
La dépêche est tombée mercredi après-midi. Yves Bourgade, le journaliste de l'agence France Presse, annonçait au monde entier cette nouvelle qui était attendue depuis plusieurs jours. On savait en effet Rudolf Nureyev au plus mal. Depuis plusieurs mois, il combattait la maladie. On l'avait vu très affaibli pour la première de la Bayadère, l'automne dernier, à l'Opéra Garnier. Jeudi matin, les journaux du monde entier titraient sur sa mort. Le Lord de la danse pour le Times de Londres. Nureyev, l'âme de la danse pour le monde. Plus direct, François annonce « Le sida a tué Rudolf Nureyev ». L'autre journal populaire, Le Parisien, lance plus sensiblement « Adieu Nureyev ». Le quotidien de Paris parle, lui, de l'oiseau bleu terrassé. Sur une photo de Jean Loussieff qui date de 1962, Libération écrit, Nureyev, le jeune homme et la mort. Le prince éternel du lac des Cygnes ou de la Belle au bois dormant n'a vécu que pour la danse. Pour l'humanité, Rudolf a arrêté son vol. Le plus magnifique danseur de ce demi-siècle, athlète absolu, pétri de puissance et de grâce, transfuge d'une patrie russe qu'il avait maltraitée, consacré star en Occident, il demeurera un mythe de l'art du chausson. La danse mondiale est ce matin paralysée de tristesse. Il était son tsar.
Martin Kahn, Rudolf Nureyev vient de nous quitter. C'était un phénomène de la danse. Et pourquoi est-il arrivé à être ce phénomène de la danse dans cette deuxième partie du siècle ?
D'abord parce que c'était un dieu. C'est ce que Baryshnikov a dit de lui. Il a dit qu'il avait l'arrogance d'un dieu. Effectivement, c'était un dieu. Ça n'était pas un dieu de nos religions judéo-chrétiennes. C'était un dieu comme les religions hindoues en comptent. Et il était descendu sur terre. Il avait pris l'apparence d'un homme et il dansait. Et effectivement, je crois que cette seconde moitié du siècle nourrit ce type de phénomène. On peut compter Charlie Appin, Maria Callas, Rudolf Nureyev. La médiatisation, l'image, permet que nous restent ces artistes que nous considérons comme des demi-dieux. Alors le phénomène n'est pas unique et il remonte à plus d'un siècle. Vestris a été appelé le dieu de la danse de son temps, mais que nous reste de Vestris ? Il nous reste des estampes, essentiellement, et un ou deux portraits. Et ni ces estampes, ni ces portraits ne rendent compte du mouvement. Il est évident que la photographie, avec la grande qualité technique et la rapidité de prise de vue qu'elle a atteint, et que le film nous permet de voir l'artiste en mouvement, comme les enregistrements de Maria Callas permettent de nous restituer la voix. Et ce sont ces progrès techniques qui font que ces dieux nous restent.
«
D'abord, il ne vivait que pour son art. Et il avait repoussé les limites de cet art et les frontières de cet art aussi loin que sa vitalité, qui était immense, encore une fois celle d'un dieu, le lui permettait. Il y avait une curiosité dans tous les domaines artistiques énorme. C'était quelqu'un qui avait toujours vu le film, le dernier film qu'il fallait voir, qui avait lu le livre qu'il fallait lire, en traduction anglaise, puisque c'était un des seuls langages dans lesquels il pouvait lire, le russe évidemment, mais s'il y a un don qui lui manquait, c'est celui des langues. Très, très bizarrement. Et il étendait toujours sa curiosité à tous les domaines artistiques, et puis ensuite il recentrait cette curiosité sur la danse. Et c'est un petit peu comme la marée. Il s'épandait tout d'un coup, il grossissait, il diminuait. Il s'épandait sur le cinéma, il s'épandait sur la musique, sur la comédie musicale, et puis tout d'un coup, comme la marée, il refluait, et dans ce reflux, il reprenait tout pour la danse.
Il est comme resté un artiste très classique.
Oui, quoique, c'est un des artistes classiques pour lesquels beaucoup de chorégraphes contemporains ont composé des ballets. C'est un artiste classique pour lequel on a remonté une comédie musicale. Il avait une formation qui le ramenait au classique, évidemment, mais sa curiosité était grande et il ne manquait aucun spectacle de chorégraphie moderne, peut-être moins curieux de la musique contemporaine. Il avait un œil. Il était ce qu'on appelle un attributionniste. Et c'est extrêmement rare, même dans nos métiers, même dans les métiers de conservateur. Il avait un œil, il regardait un dessin, il regardait un tableau, il disait « ça me fait penser à... » Et très souvent, il tapait juste. Et quand il l'avait dit, c'est comme la vérité qui sort du puits. On disait « mais bon sang, il a raison, bien sûr, c'est l'école de David. » Ça, c'est très rare. C'est un don, c'est comme l'oreille absolue. On l'a ou on ne l'a pas. Et il adorait le dessin. Il a une collection de tableaux magnifique, et il aimait la peinture avec cette curiosité et avec cette gourmandise qu'il avait pour tout. Il n'était jamais sec. Il s'appropriait les choses en les mangeant, et ça m'a souvent frappée quand je le regardais de la peinture. Il la mangeait. Il y avait une espèce de sensualité dans ce regard, et encore une fois une attribution totale.
À la Bibliothèque Musée de l'Opéra, vous rassemblez tout ce qui a pu être écrit sur Nourieff. Bizarrement, en compulsant ce matin les dossiers que vous avez pu avoir, on constate que les écrits sur Nourieff ne sont pas énormes. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, mais il n'y a pas eu de grands auteurs qui se sont penchés sur son cas.
Non, il y a ce qu'on appelle des livres d'images, en fait, beaucoup aussi, mais il n'y a pas de réflexion esthétique, disons, sur le cas Nourieff. Peut-être ça va venir aussi. Vous savez, le personnage était tellement intimidant qu'on ne disait pas. Il y a une chose que... C'est Isabelle Guérin qui me l'a dit un jour comme ça, pof, à la cafétéria, au moment où on remontait la Bayadère. Elle m'a dit « on n'a jamais osé lui dire qu'on l'aimait ». Et c'est vrai.
Wilfried Romoli, vous êtes un des danseurs qui comptait à l'Opéra de Paris. J'aurais aimé savoir comment on répétait avec Rudolf Nureyev.
On répétait avec beaucoup de concentration. En règle générale, on essaye. Mais avec lui particulièrement, parce qu'il mettait beaucoup de tension dans ses répétitions, dû à son caractère très exigeant et parfois très impétueux aussi. Et puis, il y avait beaucoup de tension de la part des danseurs, parce que c'est quelqu'un qui nous... malgré les années, qui continuaient à nous impressionner et qui impressionnaient même des étoiles confirmées et tout. On sentait ces gens-là complètement fébrile quand Rudolf était là. C'est quelqu'un qui provoquait des choses étonnantes chez les gens. Il les motivait complètement, comme j'ai rarement vu un chorégraphe ou un directeur motiver ses danseurs, rien que par sa présence. Hein, il n'avait pas besoin de pousser les gens. Parce qu'il y avait cette envie, je crois, de prouver à un homme pareil qu'on savait danser, qu'on savait faire des choses. Et en même temps, il y avait un stress de la part des danseurs qui était absolument incroyable. C'est quelqu'un qui... Il arrivait dans la salle, il s'asseyait. À la limite, on pouvait s'en rendre compte rien qu'en regardant les gens danser. Parce que tout d'un coup, ils étaient tendus comme ça. Il y avait une fébrilité qui était folle, quoi. Même sur des gens très confirmés, ça, c'était quelque chose d'étonnant. Et moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois aussi.
Est-ce qu'avec lui, on pouvait avoir un rapport copain ?
Oui. Oui, c'était possible. Au contraire, il recherchait ça. C'était possible s'il vous aimait bien et s'il vous respectait. S'il n'avait pas de respect pour vous, il n'était même pas question de lui parler, quoi. Ça fonctionnait pas du tout. À partir du moment où il vous aimait beaucoup et qu'il vous appréciait, on pouvait avoir des relations comme ça. Et même lui voulait que les danseurs aillent vers lui. Moi, personnellement, une fois, il me l'a reproché. Et je lui demandais un conseil, il m'a carrément dit « Je ne vois pas pourquoi je te répondrais. » Je lui ai dit « Parce que vous êtes mon patron, parce que... Enfin, » Il m'a dit « Mais non, tu ne me demandes jamais rien, je ne vois pas pourquoi je te répondrais. Débrouille-toi. » Il voulait qu'on aille le voir, il voulait qu'on lui parle et tout. De la même manière, si vous y alliez et que ce n'était pas le bonjour, bon, ben, il n'y avait pas de conversation possible.
Jean-Albert Cartier, vous avez été administrateur général de l'Opéra pendant plusieurs années et directeur du Ballet Théâtre Français de Nancy. Et dans ces deux occasions, vous avez travaillé avec Rudolf Nureyev. Est-ce que les relations de travail étaient tendues avec lui ?
Non, pas du tout. Je parle surtout de notre collaboration pendant le ballet de Nancy, parce que quand je suis arrivé à l'opéra, Nureyev a quitté ce théâtre à peu près à ce moment-là. Nous avons fait 150 représentations ensemble, comme guest artiste, avec le ballet de Nancy. Donc nous avons beaucoup voyagé, et je dois dire que on trouvait toujours chez Nureyev le grand professionnalisme. Quand on dit il avait des caprices, il avait ceci, il avait cela, moi je ne m'en suis pas aperçu. Bon, c'était une nature, c'était un personnage, il avait ses partis pris, il avait ses passions, bien sûr. Mais sur le plan professionnel, c'était toujours au plus haut niveau. Il avait une exigence absolue vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, et il cherchait toujours la perfection, car c'était un homme non seulement habité, mais complètement dévoré par la danse, et... Il cherchait toujours le maximum pour la danse. C'était un esprit tout à fait ouvert, car personne mieux que lui ne connaissait la danse classique. Tout le répertoire Petit Pas, ça c'était vraiment son affaire. Il a essayé de réhabiller les ballets classiques, de les moderniser en quelque sorte, avec ses grands ballets de la soirée que nous connaissons. Mais en même temps, c'est un homme d'ouverture, puisqu'il a inscrit au répertoire de l'opéra des hommes comme, bien sûr, Béjart, mais aussi comme Forsyth, comme Macmillan, Twyla Tarp, Maggie Marin, etc., et Paul Taylor. Donc, il était ouvert à toute forme de chorégraphie contemporaine. Nureyev avait un œil extraordinaire. Vous vous souvenez, quand il vous regardait, cela avait quelque chose de troublant. Et il était là, au devant de la rampe, pendant les répétitions, et quelquefois, il jetait un œil sur un danseur, une danseuse, qui était complètement au fond du décor, et il le faisait venir, et il voyait les possibilités. Et je dois vous dire que jamais il ne s'est trompé.
Justine Le Bruys, vous êtes la responsable des publications de la danse à l'Opéra de Paris. Je crois que Rudolf Nureyev avait, dans ses choix de programmation, des idées très particulières.
C'est pas des idées très particulières, c'est qu'il avait des idées vraiment. Je pense que si on fait un bilan de ces années de direction à la tête de l'opéra, c'est-à-dire donc de septembre 83 à juillet 89, il a su à la fois maintenir la tradition, reprendre des ouvrages qui étaient déjà dans le répertoire de l'opéra, ou bien amener dans le répertoire, par exemple, de petits pas, des ouvrages qui manquaient. C'est le cas de Raymonda, c'est le cas de Bayadère récemment. Et avoir lui-même des possibilités de relecture des grands ballets à la lumière freudienne, puisque pour le Lac des Cygnes, comme pour Casse-Noisette, il voyait toujours des racines dans l'enfance et une oppression des jeunes gens par les parents ou un entourage difficile. Ça, c'est un peu pour le maintien de la tradition, puisque tout ça est fait sur des partitions classiques et tout. Et il avait aussi la possibilité, et je pense la connaissance, parce qu'en fait, il fallait connaître ce répertoire-là, de faire en amont du répertoire les reconstitutions des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont finalement le patrimoine de l'opéra, mais que l'opéra ne pratiquait pas. Et en aval, si vous voulez, vers le contemporain, il a énormément élargi le répertoire aussi, en faisant appel à des gens, il faut bien dire, William Forsythe, qui n'était pas très connu. Il avait fait une courte apparition à l'intérieur du ballet de Stuttgart au Théâtre de la Ville, et c'est vraiment Rudolph qui lui a donné sa chance à l'opéra comique en 83 et récidivé en 87 avec In the Middle. Et la gloire de Forsythe est partie de sa venue à l'opéra grâce à Rudolph.
Elisabeth Morin, je crois que vous devez beaucoup à Rudolph Nureyev.
Je dois tout le début de ma carrière, en fin de compte, puisque j'étais dans sa période faste, puisqu'il était là de 83 à 89.
Comme directeur de la danse.
Directeur de la danse. Donc, étant rentrée dans le corps de ballet en 80, je peux dire que j'ai fait toute mon évolution en sa compagnie. Et c'est grâce à lui, surtout, si j'ai pu aborder les grands rôles classiques, même à ses côtés, ce qui était assez prestigieux pour moi. Et je lui dois aussi ma nomination d'étoile en 88.
Qu'est-ce qui lui plaisait chez vous ?
Je ne sais pas, je lui ai jamais demandé exactement. Je sais que la première fois où il m'a découverte, c'était quand il était venu danser La Belle au bois dormant au Palais des Congrès. Et j'interprétais L'oiseau bleu. Et là, je sais qu'il m'avait tout de suite repérée. Je l'avais senti. Et quand il est entré donc comme directeur, tout s'est confirmé, puisqu'il m'a fait danser très vite des rôles de soliste.
Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on parlait beaucoup ?
Non, on travaillait beaucoup, mais parler, non. Parler, disons que j'ai eu la chance de pouvoir communiquer un petit peu avec lui dans des dîners où il exprimait ses pensées. Mais où je pouvais aussi lui parler pour lui demander des conseils. Mais c'était quand même toujours professionnel. On l'a vu petit à petit de plus en plus malade. Mais quand on pense qu'au mois de juillet, où on commence à répéter la Bayadère, il était présent, il était là, toujours avec cet œil, même s'il il parlait moins, même s'il se levait moins pour montrer les choses. Il y avait toujours l'œil qui regardait, on pouvait comprendre si on faisait bien ou pas.
Meine Tränen und Zeit.
Jusqu'au bout, Rudolf Nourieff a été très entouré, en particulier par son fidèle médecin et ami, Michel Canesi, qui l'a soutenu dans toutes les circonstances. Également par André Larquier, le président de Radio France Internationale, qui en son temps l'avait fait venir à l'opéra. Rudolf les a chargés de créer une fondation qui viendra en aide aux danseurs atteints du sida. Et puis il a été aussi très proche d'Hélène Trailin, la conseillère à la programmation de l'opéra. Hélène Trailin.
Il est exact que j'ai eu avec Rudolf un contact proche. Nos relations étaient, je crois, très simples et authentiques. C'était certainement grandement grâce à notre origine russe et notre langue commune.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il était souvent aussi dur avec les autres et avec lui-même ?
Vous savez, il a vécu une période très dure de l'existence. En Russie, la vie a été terrible, terrible. Et Rudolf avait cette invincibilité, elle était basée justement sur cette intolérance, cette force. Sinon, il n'aurait pas survécu, sinon il ne serait pas arrivé à ce qu'il est arrivé. Rudolf était un être qui savait exactement ce qu'il voulait. Donc, tout ce qui pouvait lui faire perdre du temps, tout ce qui pouvait le distraire, tout ce qui pouvait l'ennuyer, il l'écartait systématiquement. Cela est vrai. Mais Rudolf n'était pas du tout dénué du désir de contact, d'amusement, au contraire.
Est-ce qu'il s'est bagarré dans la maladie comme il s'est bagarré dans la vie ?
Oui, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Sa maladie, il l'a combattue très longuement. Mais Rudolf était vraiment un tsar de la danse. Et c'était un être humain profond et chaleureux.
Comment est-ce qu'il traduisait son affection pour les gens ?
C'était par des regards, on le sentait dans le regard, et puis au niveau des danseurs, par des bonnes distributions, bien entendu. Des mots brefs, toujours. Rudolf n'est pas quelqu'un qui s'épanchait. Un good, comme ça, just good, avec un sourire, On avait compris. Justement, par rapport à l'amitié, son caractère, c'était quelqu'un de très étrange. On pouvait se fâcher très fort avec lui, par exemple, et puis le lendemain, il vous donnait un rôle.
Dans les relations que vous avez eues avec lui, est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont ému ?
Oh, il y a plein de moments. Il y a d'abord quand je l'ai... de danser avec lui, les premières fois que j'étais en scène à côté de lui dans des rôles, où j'ai fait Benvolio, et puis c'était une époque où il était malade, où il avait des problèmes respiratoires, et où pendant sa variation de Mercutio, il fallait que je lui emmène du thé chaud dans un verre, et tous les soirs, je lui préparais le thé, et je lui donnais le thé. À un moment dans la variation, il se retournait, il faisait semblant de boire, ivre, comme ça. Aussi, on avait fait un ballet de Luis Falco, Black and Blue, où j'avais un duel de boxeurs avec lui. J'étais très impressionné parce que déjà, j'étais tout jeune et puis il y avait quand même ce combat. Et où lui, des fois, tapait fort quand même. Et aussi, moi, j'avais le malheur de taper un peu fort. Je me faisais engueuler. Et ça c'est les moments les plus forts. Quoi. Se retrouver à faire un pas de deux avec lui ou toucher, le toucher en scène, c'est-à-dire le pouvoir même rater quelque chose, le mettre en danger lui, ça c'est une responsabilité et une émotion intense. Et puis il y a eu les émotions, mais entendues du niveau spectateur, quoi, quand j'étais un peu de l'autre côté et que je le voyais. J'ai un souvenir d'un Gisèle à New York, où malgré ses 40 ans passés et une fatigue, une technique qui était plus splendide comme elle l'avait été, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pourtant, moi, je le voyais souvent danser, quand même. Mais ce jour-là, il a fait... Ben, c'était Nouraïev, quoi. Il a été complètement étonnant. La salle était debout, et puis moi aussi. Pourtant, Dieu sait que je l'avais vu danser, que j'avais plutôt l'œil critique. Mais c'était extraordinaire. Et puis, le dernier souvenir fort que j'ai de lui, ben, c'est quand il m'a donné le rôle principal de la Bayadère. Un rôle en trois actes, dans un rôle que lui adorait. Et ben, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. J'étais vraiment touché ce jour-là. Pour moi, le bonheur était déjà plus fort que moi. Je l'avais pas encore dansé, mais ça y était, quoi. J'étais heureux comme tout.
Voilà, ce temps de la danse se termine. Comme le disent les danseurs, le spectacle continue, coûte que coûte. La semaine prochaine, vous retrouverez donc Jacqueline Tuileux.
L'hommage à Rudolf Nureyev proposé par François Delettra pour le temps de la danse a été diffusé pour la première fois le 9 janvier 1993 sur France Culture.